Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse qui suit la réunion de 2 jours du comité militaire en configuration chef d'état-major des armées. Comme nous le faisons habituellement, nous allons d'abord entendre les déclarations du président du comité militaire, le général Peter Pavel, ensuite le général Scaparotti, ensuite de la part du SACTE, le général Mercier. Mon général. Merci et bonjour. Tout d'abord, j'aimerais commencer par cette conférence de presse en vous présentant les résultats principaux de la première réunion des CEMA de 2018. Nous avons eu un programme très chargé sur 2 jours, ce qui a permis aux CEMA d'avoir des discussions sur plein de sujets différents pour donner des directives et ensuite des orientations. Nous avons commencé notre réunion avec le secrétaire général Jens Stoltenberg et avec lui, nous avons mis l'accent sur les priorités politiques et militaires pour le sommet de cette année en juillet. Et lors de notre deuxième séance, nous avons rencontré nos différents partenaires pour avoir une discussion sur la sécurité et la stabilité dans le sud de l'Europe et au sud de l'Europe. Il s'agit de l'un des défis de sécurité les plus importants auxquels nous sommes confrontés, qui a un impact sur tous les pays à travers le monde. Le réseau de partenaires de l'OTAN avec des organisations internationales telles que l'Union européenne et les Nations unies nous permet de mieux travailler, et ce de manière cohérente. Notre objectif est d'approfondir notre coopération en partageant nos expériences ainsi que notre expertise, tout en évitant les doublons, pour améliorer la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et dans ce contexte, les CEMA ont aussi souligné le rôle du pôle pour le Sud de l'OTAN. Lors de notre réunion avec les partenaires de la mission Resolute Support, nous avons parlé du contexte stratégique, opérationnel et politique en Afghanistan et autour de l'Afghanistan, ainsi que notre effort principal qui est axé sur entraîner, assister et conseiller les forces de sécurité afghanes ainsi que leurs institutions. Les CEMA ont souligné leur engagement durable vis-à-vis de l'Afghanistan et ont aussi reconnu les progrès réalisés par les ANDSF au cours de cette dernière année, notamment la croissance des forces de sécurité spéciales afghanes ainsi que de l'armée de l'air afghane, avec une amélioration dans le leadership et le fait que les forces afghanes ont de plus en plus confiance en elles quant à leur capacité de combattre et de gagner. Un autre sujet clé à l'ordre du jour était l'adaptation en cours de la structure de commandement de l'OTAN. Il est essentiel que la structure de commandement soit robuste, agile et à même de mener à bien sa mission. Une NCS qui soutient les besoins de l'Alliance pour ce qui est du commandement et du contrôle efficace, tout à travers les 3 tâches fondamentales, ce qui veut dire la capacité de défendre et protéger le territoire et les populations alliées, tout en menant des missions de gestion de crise ainsi que de sécurité coopérative. Les CEMA ont entériné l'option recommandée par l'autorité militaire de l'OTAN pour ce qui est d'une NCS adaptée et ont fourni des recommandations quant à la mise en œuvre de cette nouvelle NCS ainsi que les échéances. Il est important de souligner que l'adaptation de la NCS doit aussi faire l'objet d'une décision politique qui sera prise lors de la réunion des ministres de la Défense en février. Pour ce qui est de la transformation de la coalition globale contre l'État islamique et le rôle de l'OTAN en Irak, nous avons noté que la coalition est en train d'évoluer d'une mission de combat à une mission de stabilisation. Par conséquent, nous avons eu une discussion pour voir comment l'OTAN pourrait adapter son activité dans le cadre de notre initiative de développement des capacités d'entraînement en Irak à la demande des autorités irakiennes et tenant compte aussi des considérations liées à l'appropriation locale. La séance d'aujourd'hui a commencé avec des réunions avec l'Ukraine et la Géorgie. Les CEMA ont noté les défis pour l'Ukraine quant aux réformes de défense et de sécurité, tout en rétablissant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les CEMA ont aussi reconnu les progrès réalisés par les forces armées ukrainiennes et ont souligné aussi leur engagement pour améliorer les capacités ainsi que l'interopérabilité des forces armées ukrainiennes. Lors de notre séance avec la Géorgie, les CEMA ont reconnu la contribution considérable et de longue date de la Géorgie aux missions et opérations de l'OTAN, surtout s'agissant de la mission Resolute Support en Afghanistan. De plus, ils ont souligné leur soutien quant au paquet substantiel OTAN-Géorgie et se félicitent de l'approche constructive de la Géorgie s'agissant de la situation sécuritaire actuelle. Enfin, nous avons traité des aspects militaires pour ce qui est de la cohérence globale de l'OTAN liée à la posture de dissuasion et de défense renforcée de l'Alliance. Les SEMA ont souligné le besoin de s'assurer qu'il y ait une mise en œuvre efficace et cohérente des décisions qui ont été prises au sommet du Pays de Galles et de Varsovie, ainsi qu'au moment de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de mai dernier, ainsi que des priorités de 2018 pour appuyer les trois tâches fondamentales dans le cadre d'une approche à 360 degrés. Je vais maintenant donner la parole au SACEUR, le général Scaparotti, et ensuite au général Denis Mercier. Mike, vous avez la parole. Merci, Peter. Bonjour et merci beaucoup de me donner la possibilité de vous parler des priorités principales aujourd'hui s'agissant de la structure de commandement de l'OTAN. Pour le commandement allié opération, j'aimerais remercier les SEMA pour leur participation aujourd'hui. Il est toujours très utile de se réunir dans ce genre de groupe. J'aimerais vous remercier l'Alliance pour ce qui est des contributions aux opérations pour la défense de l'Europe. C'est quelque chose de très important et que nous apprécions beaucoup. Et j'apprécie aussi le fait que les pays fassent tout pour répondre aux exigences et pour nous apporter toutes les forces dont on a besoin au niveau de la CO. Le contexte stratégique aujourd'hui n'est pas le même qu'au moment où nous avons modifié la NCS la dernière fois. La croissance de la Russie comme concurrent stratégique, une instabilité croissante en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que le terrorisme qui est en train de modifier notre environnement de sécurité. Cet environnement de sécurité est affecté aussi par la croissance et la prolifération de nouvelles technologies qui peuvent être acquises par des acteurs étatiques et non étatiques. Ceci souligne le besoin de nous adapter face aux menaces d'aujourd'hui. Notre capacité de répondre à cela exige différentes approches ainsi que différentes capacités à l'OTAN et notamment à la CO. Les efforts de la CO, les efforts nationaux ainsi que les efforts bilatéraux et collectifs de l'Alliance doivent être intégrés et doivent se renforcer mutuellement, ce qui est essentiel car c'est cette unité stratégique qui rend l'OTAN forte. Et les pays de l'OTAN sont en train de s'adapter, de répondre au niveau national, multilatéral et de manière collective. Par exemple, des opérations ainsi que des activités telles que la présence avancée renforcée, la présence avancée adaptée, la VJTF, la police du ciel pour la mer Baltique, la police du ciel renforcée, ainsi que d'autres opérations maritimes. Dans l'avenir, il va falloir maintenir une vision stratégique à long terme ainsi qu'un sentiment de résilience, une efficience, une efficacité pour ce qui est le modèle et de la mise en œuvre est une priorité pour qu'on ait une organisation qui soit souple, résiliente et capable de réagir rapidement. L'OTAN doit être prête et réactive. Nous devons continuer à établir les conditions nécessaires, continuer d'investir aussi dans la sécurité en Europe pour notre avenir. C'est quelque chose d'essentiel pour notre réussite future et je donne la parole à Denis. Merci Mike et bonjour à tous. L'évolution de notre environnement stratégique est l'un des vecteurs principaux de notre séance du comité militaire pour s'assurer que la capacité militaire de l'OTAN reste à même de mener à bien sa mission aujourd'hui et aussi dans l'avenir. Et comme vient de le dire le SACEUR, les hypothèses stratégiques ont évolué, ce qui a mené aux modifications que nous avons mises en œuvre. Mais la situation continuera d'évoluer dans l'avenir. Et pendant ces réunions de 2 jours du MCCS, nous avons tous été d'accord pour dire que dans cet environnement, l'OTAN doit s'adapter suffisamment rapidement pour rester pertinente, que ce soit à l'intérieur de la communauté de la défense ou que ce soit à l'extérieur. Les organisations qui survivent dans un environnement complexe et qui changent rapidement sont des organisations qui sont capables d'opérer et de s'adapter simultanément. Nous ne pouvons pas nous permettre d'identifier les insuffisances sans réfléchir au plus long terme. Et c'est mon objectif principal de mettre l'accent pour ce qui est de l'ACT sur le développement de la guerre pour que le SACEUR ait les capacités nécessaires pour qu'il puisse faire face aux défis de l'avenir. Car pour gagner la guerre de demain, nous devons nous préparer aujourd'hui. Et c'est ce qui sous-tend la réorganisation de l'ACT et toute la structure de commandement de l'OTAN. Merci beaucoup. Nous avons maintenant 20 minutes pour des questions-réponses. Je vais vous demander de vous présenter avant de poser votre question. Monsieur qui est tout devant, merci. Michael Pio du Financial Times. S'agissant des deux nouvelles structures de commandement qui ont été proposées, pourriez-vous nous donner plus de détails sur où se trouveront ces commandements, comment ces commandements fonctionneront, leurs responsabilités? Au-delà du fait que l'un de ces commandements sera transatlantique et l'autre sera lié à la mobilité militaire, par exemple, quels sont les matériaux qui pourront déployer l'équipement? Et deuxièmement, est-ce que vous avez eu une discussion sur la propagande et les luttes contre la propagande et quelles étaient vos conclusions en cette matière? Je vais commencer avec la première question. Vous avez vous-même répondu à cette question. Je ne peux pas vous donner davantage de détails, à part le fait que l'un de ces commandements se chargera de la sécurité dans la zone atlantique et l'autre aura un rôle de soutien pour les opérations à l'arrière et un soutien logistique. Mais bien sûr, il va falloir qu'il y ait des décisions, des discussions politiques, ce qui auront lieu en février. Je ne peux pas vous donner davantage de détails, même si nous avons formulé des recommandations militaires, mais ces recommandations vont d'abord devoir être étudiées par les politiques. Ensuite, pour ce qui est de la propagande, est-ce que vous parlez de quelque chose de spécifique ou est-ce qu'il s'agit d'une question générale? Alors, pour répondre à votre première et votre dernière question, moi, je dirais que les changements dans l'environnement, eh bien, il y a eu une augmentation de l'activité russe. Il s'agit d'une préoccupation sécuritaire, des acteurs terroristes transfrontaliers, des activités juste en dessous du niveau d'un conflit, de la déstabilisation. Ce sont des éléments qui font partie de notre environnement aujourd'hui. Et ce sont des choses que nous sommes en train de traiter dans le cadre de l'adaptation de la NCS. Il y a aussi la vitesse de l'information, la vitesse à laquelle les décisions peuvent être prises. Il s'agit d'un autre élément dont on doit tenir compte. Donc, nous sommes en train de créer une NCS robuste mais souple qui est capable de s'adapter à ces changements environnementaux. Et par exemple, nos troupes sont armées, par exemple, dans un environnement d'information active où on peut utiliser des réseaux sociaux, on propose des formations individuelles avant qu'ils ne viennent pour qu'ils puissent se préparer face à la menace posée par les réseaux sociaux en tant qu'individuel, mais en tant qu'unité aussi. C'est ce que nous faisons donc pour l'EFP et pour les autres forces aussi, par exemple la force maritime, mais cela fait partie de ce que nous sommes en train d'envisager pour l'avenir. La dame au quatrième rang, le micro arrive au milieu. Là ou là? Terry Schultz de National Public Radio, quand le général Dunford était là, et il a dit que la Russie était maintenant la menace principale pour l'Europe et pour le continent. Il a aussi dit que personne ne se sent tout à fait à l'aise s'agissant de là où nous nous trouvons maintenant. Et est-ce que vous pensez que l'ajout de ces deux commandements vous mettront plus à l'aise? Il a dit que la Russie a modernisé tous les aspects de ses forces armées. Est-ce que l'OTAN a toujours une longueur d'onde de retard, même si, malgré tous les changements qui se sont déroulés ces dernières années?
Eh bien, le principal argument, c'est que la Russie représente un défi évident. Il y a une nouvelle réalité de sécurité après l'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes dans la vallée du Donbass et les activités russes en Syrie et les efforts dans le contexte plus large de la Méditerranée. Donc, nous devons réagir à ce nouvel environnement de sécurité et c'est la principale raison pour laquelle nous avons adopté cette nouvelle structure de commandement de l'OTAN pour mieux correspondre à la réalité actuelle. Nous considérons la Russie comme étant un rival et donc nous suivons de près les développements et nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires pour être prêts à toute situation qui pourrait survenir. Oui, évidemment, j'ai des inquiétudes concernant la Russie. Ça fait partie de cette adaptation de la structure de commandement de l'OTAN. Je pense que, à titre d'alliance, bon, nous sommes supérieurs. Il y a des domaines, par contre, où il y a certaines difficultés. Le domaine cyber, par exemple, c'est un de ces domaines. Je pense que la Russie est très compétente là-dedans. Mais il y a d'autres secteurs où nous sommes dominants pour l'instant, mais ce ne sera peut-être pas le cas dans 5 ans si on ne s'adapte pas pour adapter notre structure. Mais également, les pays doivent adapter leurs capacités dans tous les domaines fonctionnels et dans tous les domaines militaires. Vous avez parlé de deux des modifications possible, mais je pense qu'il faut également regarder cette question de l'adaptation, la considérer dans son ensemble, parce qu'il y a un certain nombre de variables dans l'adaptation qui, prises ensemble, nous permettront de maintenir cette domination. Si je peux me permettre, étant donné que nous avons diffusé récemment un point de situation où nous avons actualisé un document qui décrit les tendances qui pourraient mener à une crise à l'avenir, donc qui envisage toutes les crises auxquelles nous pourrions être confrontés. Nous sommes en train d'actualiser ce document qui décrit les incidences militaires et en nous basant là-dessus, nous allons voir ce qui pourrait menacer l'OTAN à l'avenir. Et donc, ça, c'est le but de mon état-major. Et que devons-nous faire pour relever ces défis? Julian Barnes, Wall Street Journal. Général Scaparotti, il y a eu des reportages qui disaient que vous allez rencontrer le général Gerasimov. Est-ce que cette réunion va effectivement se tenir et quel est au programme de cette réunion? De quoi allez-vous lui parler? Et général Mercier, pour ce qui est des capacités précises que la Russie est en train de mettre au point, qu'est-ce qui est... au sommet de vos priorités? Est-ce que ce sont les capacités cyber ou les capacités militaires plus traditionnelles que vous avez pour lesquelles vous avez enjoint les alliés de travailler? Merci, Julian. Comme vous le savez, j'ai parlé au général Gerasimov en septembre. Nous avons convenu de nous rencontrer et donc les préparatifs sont en train d'être faits. Je m'attends à ce que nous nous rencontrions et je vous donnerai davantage d'informations lorsque les détails auront été fixés. Pour ce qui est du but de cette rencontre, c'est pour continuer à établir des canaux de communication entre nous. Il s'agit de transparence, donc nous allons nous en tenir aux questions militaires, les exercices, les opérations. Actuellement, nous avons des forces qui sont près l'une de l'autre pour qu'on comprenne bien ce que chacun fait dans le domaine militaire et pour nous assurer que qu'il n'y a pas de malentendus ou d'erreurs de calcul. Et la dernière chose, c'est que nous avons un canal de communication bien établi et donc c'est une autre mesure que nous avons prise pour renforcer ce canal de communication. Et pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, dans notre adaptation, nous allons préciser davantage l'examen des futures technologies, mais on ne se limite pas à la Russie. Quelles sont les technologies qui peuvent être utilisées pour nous menacer, qu'elles soient utilisées par des acteurs étatiques ou non étatiques? Et la difficulté avec un bon nombre de technologies aujourd'hui, c'est qu'il y a des mini-acteurs, même des particuliers, qui peuvent avoir accès à ces technologies. Et donc, notre objectif, c'est d'examiner ces technologies et de voir comment on peut les profiter de ces technologies et de voir également comment elles peuvent menacer la supériorité de l'OTAN et que pouvons-nous faire pour maintenir notre supériorité. Donc, c'est un effort constant donc qui va de pair avec l'innovation. Et un autre élément, comme c'est absolument essentiel pour lorsqu'on parle d'architecture numérique, l'intelligence artificielle également, l'interopérabilité qui n'est pas simplement une question technique, mais il y a également l'interopérabilité politique de nos différents systèmes. Oui, je représente une station de radio au Pakistan. Étant donné la tension actuelle entre les États-Unis et le Pakistan, cette tension qui monte, qui croît tous les jours. La coopération en matière de renseignement, avec l'OTAN en Afghanistan, comment est-ce que cette tension va... Quelles sont les incidences sur la situation en Afghanistan? Et la province, le gouverneur de la province du Nord s'est révolté contre l'autorité centrale du Pakistan. Il a refusé de démissionner et il conteste le décret du président afghanien. Alors, comment est-ce que cela... quelles seront les répercussions sur les opérations de l'OTAN? Je ne peux pas faire de commentaires, évidemment, sur les relations bilatérales entre les États-Unis et le Pakistan, mais nous tentons d'influencer tous les acteurs régionaux pour qu'ils coordonnent leurs activités, pour qu'on améliore la sécurité et la stabilité de l'Afghanistan. Nous avons un représentant du Pakistan à notre réunion. Nous sommes concentrés sur les questions de stabilité et donc nous essayons de contribuer de façon constructive. Je crois fermement que les autorités pakistanaises ont pris des mesures pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, il y a toujours, on peut toujours s'améliorer et donc. C'est une partie essentielle du mandat du commandant de la mission Resolute Support. Nous travaillons avec tous les acteurs pour améliorer la sécurité en Afghanistan, y compris avec les autorités pakistanaises. Robin? De l'agence Reuters. Général Pavel, vous avez envoyé un tweet hier concernant le fait que l'Irak... souhaitait avoir plus d'entraînement de l'OTAN en Irak. Si vous pouviez, Général Scaparati, nous donner davantage une meilleure idée du calendrier pour les activités de formation de la Pologne. Oui, pour répondre à votre première question, la situation en Irak évolue. Nous ne pouvons pas dire que physiquement l'État islamique a été vaincu, ce qui ne veut pas dire que en fait, on peut dire que oui, l'État islamique a été vaincu, mais ça ne veut pas dire que l'idéologie, elle, a été vaincue. Et donc, il faut bien comprendre que l'Irak aura besoin d'aide l'Irak aura besoin d'aide de la part de la coalition et de la part de l'OTAN. L'OTAN envisage actuellement les différentes solutions pour augmenter son aide et ce sera à l'ordre du jour de la réunion des ministres de la Défense le mois prochain. Et donc, nous sommes en train d'examiner la situation, les différentes options qui se présentent à nous et nous sommes disposés à offrir davantage d'assistance en nous basant sur les besoins de la coalition et du gouvernement irakien. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les activités d'entraînement, de formation, d'assistance et de conseil. Oui, alors, je ne peux pas vous donner de date précise pour l'instant. Tout récemment, les personnes qui sont responsables de ces questions vont me présenter, vont faire un point de situation et donc j'aurai une meilleure idée. Ce devrait être au cours de l'année. Dans la troisième rangée. Station de radio de l'Allemagne. Oui, pour ce qui est de l'Afghanistan, la mission Resolute Support va passer de 14 000 à 16 000 soldats. Est-ce que ces personnes sont déjà sur le terrain ou est-ce qu'elles sont en route? Et est-ce que c'est suffisant du point de vue militaire? Et également, si je peux vous poser une autre question sur la structure de commandement, est-ce qu'on peut dire que le pôle logistique va permettre une mobilité ou un transfert rapide des troupes à travers l'Europe. Est-ce que c'est une bonne idée de baser ce pôle en Europe centrale? Oui, alors, pour ce qui est des chiffres exacts, je vous renvoie à la mission Resolute Support pour ces chiffres. Les chiffres exacts. Oui, je suis ravi de la réaction des alliés et de l'OTAN. Bon, on n'a pas répondu à 100% des besoins, comme vous le savez sans doute, mais on a plus de 90% tout de même des besoins qui seront auxquels nous allons répondre. Et donc, il est clair que pour arriver à 100% des demandes des commandants, il faudra travailler plus rapidement, plus efficacement et avec moins de risques. Mais je suis convaincu que nous avons les capacités nécessaires et je suis satisfait des avancées qui ont été réalisées au cours de la dernière année. Pour ce qui est de la logistique, comme vous le savez, nous nous sommes concentrés sur la logistique pour ce qui est du soutien apporté aux troupes dans la zone euro-atlantique, et également pour ce qui est de la mobilité et de l'infrastructure que ça nécessite. Donc, ce n'est pas simplement les aspects militaires. Et nous allons traiter de toutes ces questions dans le cadre de la NCS pour déterminer l'emplacement de toutes ces structures. L'agence de presse du Koweït. Vous avez dit que l'État islamique ou Daesh avait été vaincu, mais pas son idéologie. Alors, est-ce que vous estimez que ça représente toujours une menace pour la sécurité régionale? Et deuxièmement, combien de pays partenaires ont participé à la réunion sur la coalition pour vaincre l'État islamique? Tout d'abord, pour ce qui est de la menace, il est clair que jusqu'à ce que cette idéologie tant que cette idéologie va attirer l'attention, elle reste dangereuse parce qu'elle va à l'encontre de la civilisation, je dirais, peu importe la religion dont elle se réclame. Et donc, nous sommes tous solidaires, nous combattons tous ensemble cette idéologie. Évidemment, il faudra encore beaucoup de temps pour qu'on puisse dire qu'on est débarrassé de cette menace. Nous travaillons avec un certain nombre de pays. Et donc, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, de chiffres précis, mais j'estimerais qu'il y avait plus de 40 partenaires autour de la table. Et nous collaborons, nous coopérons étroitement avec la coalition mondiale et même avec tout pays qui est disposé à nous aider et à contribuer. Et je crois vraiment que la clé du succès, c'est d'avoir une coopération la plus large possible, qui sera flexible et qui répondra à tous les éléments de cette menace, non seulement les destructions physiques, donc non seulement la destruction physique de l'État islamique, mais également les éléments qui sont à la source de cette idéologie, c'est-à-dire les causes socio-économiques, les éléments religieux également, et donc ce qui va bien au-delà des capacités d'une organisation comme l'OTAN. Et c'est pour cela que nous devons coopérer avec toutes les autres organisations, avec les institutions, les pays qui ont les outils nécessaires pour répondre à cette menace. Il nous reste du temps pour une seule question, une dernière question. Je peux vous poser la question en français? Je peux vous poser. Non, c'est mieux en anglais, donc. Alors, pour ce qui est de l'Irak, je voulais savoir si l'augmentation, le renforcement de la mission en Irak concerne également le Kurdistan, la région d'Erbil. Avez-vous reçu des demandes à ce sujet ou êtes-vous disposé à augmenter l'aide pour le régime, le gouvernement du Kurdistan? Et pour ce qui est de la modification de la structure de l'OTAN, combien tout cela coûtera? Quel est le budget prévu? Qui va payer? Alors, pour ce qui est de la mission en Irak aujourd'hui, c'est une mission très limitée, très précise. Et nous allons continuer à nous concentrer là-dessus, le renforcement des capacités. Et c'est le secteur où l'Irak nous a demandé de l'aide. C'est en fait une décision de politique à prendre qui sera basée sur les besoins de l'Irak et sur la décision des pays. Et donc, à ce moment-là, je recevrai des directives de l'ACO pour exécuter la mission. Et j'ajouterai que nous faisons de notre mieux pour ne pas faire de distinction, le soutien de l'OTAN est fourni à l'Irak comme entité unifiée. Et donc, nous appuyons tous les citoyens de l'Irak et nous voulons renforcer les forces armées de l'Irak et non pas les forces armées d'un groupe ethnique particulier. Merci pour ces questions. Cela met fin à notre conférence de presse.